Bonjour, vous écoutez Nouvelles Perspectives, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Nouvelle Perspective, l'émission dédiée à vos transitions professionnelles que vous pouvez retrouver chaque lundi à 11h et chaque dimanche à 12h30 sur RLP 102.3. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un vrai temps pour vous. Un temps pour respirer, pour écouter ce qui vous parle encore malgré la fatigue. Un temps pour vous reconnecter à ce que vous ne voulez plus et à ce que vous espérez en silence. Mais avant de plonger ensemble dans le sujet du jour, j'ai une annonce importante à vous faire. Du 2 au 6 juin prochain, j'aurai la joie de participer au Sommet de la reconversion professionnelle, un événement 100% en ligne, gratuit, ouvert à toutes celles et ceux qui cherchent un nouveau souffle professionnel. Ce sera un espace riche en partage, en outils concrets, en paroles vraies. Vous pouvez déjà vous inscrire via mes réseaux sociaux, Nathalie Offreur, ou en tapant simplement Sommet de la reconversion Nathalie Offreur dans votre moteur de recherche. Bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un mot qu'on prononce souvent à demi-voix, à demi-mot. Un mot qui vient parfois avec beaucoup de silence, parfois même de honte. Un mot qui marque un avant et un après dans une vie professionnelle. Ce mot, c'est le burn-out. Je ne vais pas vous en faire une définition froide. Vous savez, si vous êtes passé par là ou si vous sentez que vous n'êtes pas loin, ce que c'est. Il ne s'agit pas seulement de fatigue. Ce n'est pas non plus juste un stress, c'est une pathologie. C'est un effondrement. Un moment où le corps dit stop, où la tête sature, où on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait la veille encore, sans difficulté ou relativement aisément. Un moment où l'on ne sait plus bien qui on est en dehors du rôle qu'on a tenu pendant tellement d'années. Et puis, quand on sort lentement de cet épuisement, car il s'agit d'un épuisement, une question revient comme une vague sourde. Et maintenant ? Maintenant que je me suis effondrée, je ne pourrai plus jamais faire la même chose qu'avant. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Changer de voie, oui, mais comment sans m'imposer à nouveau les mêmes schémas ? Comment ne pas repartir dans un nouveau projet qui, lui aussi, va nous faire du mal, va nous avaler tout entier. Comment se reconstruire autrement, sans céder à l'injonction de la performance encore et encore, même dans la reconversion? Car oui, on peut faire un burn-out de reconversion. C'est moins connu, mais c'est réel. Quand on se donne à fond pour réussir dans sa deuxième vie professionnelle et qu'on arrête de s'écouter, d'écouter ses limites, ses besoins, qu'on n'arrive pas à poser nos vraies limites. Ce dont je parle aujourd'hui, donc, c'est de ce point de bascule, ce moment charnière où l'on veut changer, mais où on se sent encore fragile, ce moment où on veut retrouver du sens, mais sans se perdre à nouveau. Je suis Nathalie Offreur et j'accompagne celles et ceux qui cherchent à se remettre debout sans se renier. Bienvenue sur Nouvelle Perspective. On va parler vrai, on va prendre du temps et on respire. La suite, ce sera dans la profondeur de ce qui se passe en soi après l'effondrement, quand on commence à guérir. Bien sûr, il faut respecter le temps que ça prend, souvent se faire accompagner médicalement. Après un burn-out, il y a souvent un grand vide. Un espace étrange, presque irréel, un entre-deux où plus rien ne fonctionne comme avant. On a beau avoir quitté le poste, posé un arrêt et débranché les notifications, le corps, lui, continue de dire non. Il refuse les sollicitations, même minimes. La simple idée de reprendre quelque chose devient lourde. Une tâche anodine, comme faire ses courses ou répondre à un message, peut sembler absolument insurmontable. Et pourtant, autour, le monde continue. La vie avance et très vite, la pression revient. Tu vas faire quoi maintenant? Tu as réfléchi à ton avenir? Tu vas pas rester comme ça? Mais à l'intérieur, c'est trop tôt. Ce n'est pas le moment. On est là, entre deux rives, pas encore capable d'agir, plus capable de revenir en arrière, surtout pas. Et c'est dans cet entre-deux que s'ouvre le vrai travail intérieur. Un travail lent, invisible, profond. Je vois cette période comme un flou dense. Les journées s'étirent, on dort mal, et même penser devient un petit peu brumeux. On ne rêve pas encore de reconversion, on veut juste que ça s'arrête. Le bruit, la pression, l'obligation de produire encore et encore, stop. Pourtant, dans ce silence, un espace s'ouvre. Un espace qu'on n'a peut-être jamais pris le temps vraiment d'habiter. Celui de ses besoins profonds. Pas les compétences, pas les objectifs, non, 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 juste les besoins. Guérir. Des besoins parfois de lenteur, de clarté. Y voir clair, prioriser, retrouver de la paix, de la sérénité et de la sécurité intérieure. C'est là que le burn-out, paradoxalement, peut devenir un tournant dans une vie. Il arrache le masque, il met en lumière tout ce qu'on a ignoré avant, nos limites, nos valeurs, nos aspirations qu'on a sacrifiées souvent. C'est un point de rupture, oui, mais un point d'humanité profonde. C'est un appel. J'ai envie de vous le dire clairement, vous n'avez pas besoin d'aller vite après un burn-out. Vous avez besoin de guérir, de retrouver vos capacités, de vous écouter. Vraiment. Souvent de vous faire accompagner. Je crois souvent des personnes qui veulent aller de l'avant trop tôt. Ils se disent « faut que je me remette dans le bain ». Mais elles oublient que c'est bien ce bain-là qui les a brûlés. Est-ce que vous avez envie de vous remettre dans un bain où vous vous êtes brûlé? N'est-il pas préférable d'attendre? Alors aujourd'hui, si vous êtes dans ce flou, si votre énergie est basse, si vous ne savez plus trop ce que vous voulez ou ce que vous valez, accueillez tout cela. C'est un passage, c'est un signal et c'est aussi souvent une chance si vous le regardez et si vous vous regardez avec douceur. Laissez revenir ce qui avait été mis sous silence. Les rêves, les intuitions, les refus, peut-être même une colère. Tout ça, c'est précieux. C'est souvent là, dans ce terreau, que va naître le vrai mouvement. On va parler à présent de ce qui se passe en soi après l'effondrement. Après un burn-out, il y a souvent un grand vide, un silence, une espèce d'apesanteur intérieure, comme si tout ce qu'on avait tenu, soutenu, construit ne tenait plus. Et pourtant, ça ne se voit pas toujours de l'extérieur. On peut avoir l'air en pause ou en convalescence. Mais à l'intérieur, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond et vaste. Un effondrement du système. Pas seulement un système professionnel, un système de pensée, un système de valeurs, un système d'identité. Et c'est vertigineux. On ne sait plus très bien qui on est. On ne se reconnaît plus dans l'image qu'on avait de soi. On ne supporte plus ce qu'on supportait la veille. Le corps dit non, le cerveau ralentit, l'envie disparaît. Et très vite, l'entourage s'inquiète. Tu vas faire quoi maintenant? Tu devrais reprendre un peu, ça te ferait du bien. Est-ce que tu as pensé à te former? Mais à ce stade-là, ce n'est pas encore le moment de penser. C'est juste le moment de s'écouter, d'être, de prendre soin de ses besoins. J'ai accompagné des personnes à ce moment précis et à chaque fois, je vois la même chose. Une forme de honte, évidemment, le regard social, mêlé à de la confusion. On a l'impression de ne plus être à la hauteur. On se sent inutile, lent, dépassé. On se juge soi-même, on se culpabilise souvent, parfois plus que les autres. Et on se dit, je suis cassé, c'est foutu. Mais je veux vous dire une chose, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train de vous désadapter à quelque chose qui vous abîme. Et ça, c'est un processus profondément sain. C'est aussi un processus un peu de deuil. Dans ce silence intérieur, il y a une immense sagesse à retrouver. Le burn-out ne parle pas seulement de surmenage, il parle aussi de suradaptation, de tout ce qu'on a tué, de tout ce qu'on a encaissé pour rester fonctionnel. Et dans ce vide, un jour, quelque chose revient. Ce n'est pas encore un projet, c'est un besoin. Un besoin très simple, très archaïque parfois. Dormir, marcher, être seul, pleurer tout son saoul, toucher la terre, lire, respirer enfin profondément. Ce sont ces besoins qui sont votre point de départ. Je me souviens d'une femme, Carole, professeure des écoles, qui avait tenu bon 18 ans sans jamais dire qu'elle n'en pouvait plus. Le jour où elle a craqué, elle a dormi pendant presque 12 heures par jour pendant 2 semaines. Puis, elle s'est mise à marcher. Seule, chaque matin, dans une forêt près de chez elle. Et elle m'a dit un jour, je ne savais plus qui j'étais. Mais je sentais que ces pas-là, marcher dans la forêt comme ça, tranquille, c'était déjà un peu moi. Et c'est exactement ça. Le retour à soi commence bien avant la reconversion. Il commence dans l'acceptation radicale de ce qu'on ressent, dans l'accueil, simplement l'accueil. Sans chercher à aller mieux tout de suite, mais en reconnaissant ce qui est là. Alors je vous pose la question. Quels sont les signaux que vous avez ignorés trop longtemps? Quels sont les besoins que vous avez comprimés pour rester solide, pour rester forte, fort? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez vous autoriser à ressentir sans filtre, sans aucun filtre? Le flou, c'est un passage. La fatigue, c'est un message. Et la lenteur, c'est un soin. C'est dans ce vide qu'une autre version de vous-même est en train de se préparer. Pas pour performer à nouveau, mais pour vivre, simplement vivre. Nous sommes des êtres vivants, vivre autrement. Alors maintenant, on va parler de ce qui se passe quand quelque chose se remet à vibrer en soi. Il y a un moment, souvent discret, presque fragile, où quelque chose commence à revenir. Ce n'est pas encore un projet, ce n'est même pas une idée très claire, c'est un frémissement, comme une étincelle qu'on avait oubliée, une image furtive, une phrase qu'on lit et qui nous fait vibrer, un souvenir qui revient avec un goût de possibilité, un petit goût de peut-être. Ce moment-là, je le reconnais chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Je me souviens d'un matin, il faisait gris. Édouard buvait son café et qu'il trouvait relativement sans goût, comme souvent dans cette phase. Et puis, sans raison apparente, il a pensé à sa voix et à ce qu'il aurait envie de faire. Raconter, écrire, lire à voix haute, enseigner, transmettre. Un peu comme s'il parlait à quelqu'un qu'il ne voyait pas, mais il avait cette volonté de transmission qui était loin, enfouie en lui. Mais à ce moment-là, c'est revenu à la surface. Et il a su que c'est par là, pour lui, que quelque chose devait renaître. Peut-être que vous avez vécu un moment comme lui, ou qu'il arrive là, en ce moment, ce moment très spécial pour vous. Un « et si » un peu timide, une possibilité, un peut-être. Une envie peut-être que vous pensiez impossible. Un domaine qui vous attire sans véritable raison ni projet. Quelque chose de pas rationnel, pas forcément rationnel. Mais moi, j'appelle ça le fil rouge. On n'a pas encore tout le tissu, mais on commence à sentir le fil. Pour certaines personnes, ce fil surgit à travers une émotion. Pour d'autres, c'est en mettant les mains dans la terre, en faisant. Ou alors en se reconnectant à l'art, aux soins ou à la transmission. Et parfois, une simple réaction du corps. Le cœur qui bat un peu plus fort quand on parle d'un sujet. Le souffle qui s'apaise à l'idée de changer d'environnement. Je pense aussi à cette femme, Hélène, ancienne cadre dans l'événementiel. Elle a fait un burn-out si violent qu'elle ne supportait plus la foule, ni le bruit, ni la pression. Un jour, presque par hasard, elle a commencé à faire du pain, juste pour elle. Et aujourd'hui, elle a ouvert une micro-boulangerie rurale où elle accueille des gens, en silence, tranquillement. Calmement, au quotidien. Et elle m'a dit un jour, j'ai retrouvé le goût de faire, mais à mon rythme, à mon échelle, et sans me trahir, sans trahir mes valeurs. C'est ça, la direction juste pour soi. Pas une idée brillante pour les autres, pas quelque chose qui fait bien, mais un mouvement qui vous fait du bien à vous. Bien sûr, c'est pas encore fluide, il y a de la peur, de l'ambivalence, du doute, et c'est sain, c'est normal de douter. Le doute est sain, le doute est normal. Parce qu'on ne se reconstruit pas sur les cendres avec une pelle mécanique. Non, on avance doucement, on teste, on s'autorise à explorer. On se pose des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que j'aimais faire avant que tout s'effondre? Qu'est-ce que je sais facilement réussir sans effort, même quand je vais mal? Voilà, il y a des choses qui restent faciles pour moi. Qu'est-ce qui m'apaise vraiment et que je pourrais transmettre aux autres? Vous pouvez noter ou juste y penser, mais surtout laisser émerger ce qui revient. Même si ça vous semble farfelu, même si ça ne rentre pas dans les cases, souvent c'est justement là, dans l'inclassable, que réside le cœur de votre prochaine vie professionnelle. Et parfois, ce que vous pensez être rien du tout est déjà le début de tout pour vous. Alors à présent, on va parler de passage à l'action et d'engagement. À un moment, à ce stade, il faut sortir du bois. Déjà, beaucoup de temps a passé. 6 mois, 1 an, ça peut être long. C'est comme ça. Le temps a passé et il est temps de sortir du bois, mais pas pour prouver aux autres, non. Pas pour réussir, pas pour performer, mais simplement pour ne plus se trahir. À ce moment-là, ce moment-là est à la fois libérateur et terrifiant. On se dit, oh, allez, je tente quelque chose. Pas forcément quelque chose de grand. Ça peut être très humble. Pas forcément non plus quelque chose de visible d'ailleurs, mais quelque chose d'incarné, quelque chose qui fait sens. J'ai accompagné Antoine, ancien chef de projet dans le digital, et après un burn-out assez sévère, il avait tout arrêté. 3 mois de vide complet, 6 mois de convalescence, et un jour il m'a dit, je crois que j'ai envie de devenir menuisier. Je sais, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, mais j'ai besoin de faire avec mes mains, de voir le fruit de mon travail. Et je l'ai vu rougir en le disant, je l'ai vu monter en émotion, comme s'il venait d'avouer quelque chose d'un peu intime. Parce qu'on ne quitte pas un bon poste, un bon salaire, une bonne carrière pour un métier manuel, en tout cas pas dans son monde jusqu'à présent. Et pourtant, c'était la première fois que je le voyais respirer comme ça, aussi pleinement. Alors il a commencé d'abord un stage d'observation pour voir si ça lui plaisait vraiment, puis quelques heures de formation pour tester, puis s'est vraiment formé. Il s'y est mis et aujourd'hui il travaille à son compte. Il roule peut-être pas sur l'or, mais il en vit très correctement et surtout il n'a plus d'ulcère. Il n'est plus sur la route du burn-out non plus. Et il se sent tout simplement à sa place. C'est ça aussi s'engager autrement. C'est pas forcément tout plaquer d'un coup, c'est voilà, poser une décision, un acte, un vrai. Souvent c'est petit, en tout cas au début. S'inscrire à une journée découverte, aller parler à quelqu'un du métier qu'on envisage, reprendre un dossier qu'on avait mis de côté, tester une offre, contacter un réseau. Mais attention, c'est aussi là que surgit le risque le plus sournois. Celui de retomber dans l'ancien monde, sous un autre nom, sous une autre forme. Je vois tellement de reconversions qui rejouent les mêmes scénarios, les mêmes schémas, même pression, même course à la reconnaissance, à la performance, même oubli de soi. Mais avec un nouveau vernis. Thérapeute, coach, artisan, freelance, et on pousse le moteur et derrière les mêmes excès, les mêmes peurs de manquer, les mêmes semaines de 60 heures, comme si on cherchait à se racheter de s'être effondré. Encore là-dessous des histoires de culpabilité. Alors moi, je vous le dis avec toute ma bienveillance, vous n'avez pas de dette à rembourser. Vous avez un nouveau rapport à tisser avec votre travail. Et ce rapport-là, il doit vous ressembler. Je pense à Sophie Fontanelle, journaliste et autrice, qui raconte comment elle a quitté la frénésie de la mode pour un rythme plus lent, plus profond, plus fidèle à elle-même. Ou à Guillaume Nery, champion du monde d'apnée, qui a failli mourir pour avoir ignoré ses propres limites et qui consacre aujourd'hui sa vie à enseigner l'écoute du corps et la beauté du silence. Ce sont des modèles publics, mais les mêmes dynamiques existent chez chacun de nous, chacune de nous. Et cette dynamique, elle commence quand vous décidez que votre paix intérieure vaut plus que votre image. Car le burn-out, c'est pour beaucoup une pathologie sociétale. Vous n'êtes pas responsable à 100% de cette histoire-là. S'engager, ce n'est pas se relancer dans une quête de performance. C'est choisir un chemin aligné, un rythme plus juste, des conditions de travail qui vous respectent. Et parfois, ça signifie faire moins, gagner un peu moins, mais vivre plus. Et vous ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à honorer dans cette nouvelle étape ? Quelles limites avez-vous besoin de poser dès maintenant pour ne pas rejouer l'ancien scénario ? C'est là que votre engagement commence. Pas dans le faire, mais dans le comment je fais ce que je fais. Et dans cette réponse, il y a déjà toute la transformation. À présent, on va parler d'ancrer une autre manière d'être au monde. Un jour, sans s'en rendre compte, on se surprend à sourire. Pas parce qu'on a réussi, pas parce qu'on a tout compris, mais parce qu'on sent que le corps est moins tendu. Les nuits sont un peu plus sereines désormais. La peur n'a plus le dernier mot. C'est là souvent qu'on comprend qu'on a atterri. Pas dans une destination définitive, mais dans une nouvelle manière d'habiter sa vie. La vraie reconversion, c'est pas un saut, c'est une respiration retrouvée. Je pense souvent à Charlotte Husson, fondatrice de Mr. K, qui a fait de son expérience du cancer un combat pour la dignité, pour le style et pour la vie. Elle aurait pu reprendre son ancien poste dans la mode, mais elle a choisi de créer autre chose, à son image, avec ses fragilités, sa force et son rythme. C'est exactement ça. L'après ne ressemble pas à l'avant, mais il s'enracine dans ce que vous avez traversé. Et ça ne veut pas dire que tout sera facile. Il y aura des moments de doute, de fatigue, de repli, des moments où vous vous direz « ai-je fait le bon choix ?» Mais ce que vous aurez gagné, c'est une autre boussole. Vous ne laisserez plus les autres décider à votre place. Vous saurez dire non, reconnaître vos limites. Vous saurez vous arrêter quand il le faut. Et surtout, vous saurez vous écouter. C'est ce que je vous souhaite profondément. Une reconversion qui ne soit pas une fuite, mais un retour à soi. Un retour à vous, à vos limites, à vos élans naturels, à ce que vous voulez vraiment incarner après la guérison. Et si aujourd'hui vous êtes encore au bord du rivage, si vous hésitez, si vous avez peur, si vous ne voyez pas encore la terre ferme, je vous invite à ne pas rester seul avec ça. Ne restez pas seul en souffrance avec les peurs et les angoisses. Il existe des lieux, des personnes, des cadres pour vous accompagner sans vous brusquer. Je le fais moi-même à travers des bilans de compétences, évidemment, que je propose, humains, lucides, activables. Des bilans pour penser autrement, pour réinventer sans s'épuiser à nouveau. Bien sûr, il y a des psychologues, il y a tout un tas de partenaires de l'emploi et de la formation également. Et puis, il y a aussi ce moment collectif que je vous ai annoncé au début de cette émission. Le sommet de la reconversion professionnelle qui commence ce 2 juin et qui va durer toute la semaine. 5 jours de contenu en ligne entièrement gratuit, des conférences, des ateliers, des témoignages et surtout des voix qui n'idéaliseront rien mais qui diront vrai. Vous pouvez vous inscrire sur mes réseaux sociaux, il suffit de taper Nathalie Offrère ou Nathalie Offrère sommet de la reconversion 2025. C'est peut-être là que commencera pour vous le début simplement d'autres choses. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute aujourd'hui. Vous pouvez retrouver mon émission chaque semaine, le lundi à 11h, le dimanche à 12h30. Ça s'appelle Nouvelle Perspective. Et prenez surtout soin de vous. Écoutez vos besoins. Prenez soin de ce que vous devenez également. Et surtout, souvenez-vous que vous n'avez rien à prouver, juste à vivre pleinement. Je vous dis à très bientôt dans Nouvelle Perspective.